Dans le livre des Actes, nous allons suivre l'apôtre Paul dans un de ses nombreux voyages. Donc, chapitre 16, et à partir du verset 16, Actes des apôtres, chapitre 16, et verset 16. Nous allons rencontrer plusieurs personnes. Plusieurs situations, plusieurs circonstances. Et vous verrez avec moi que beaucoup, beaucoup de gens vont connaître des moments douloureux. C'est assez surprenant d'ailleurs, mais chacun, avec un arrière-plan différent, va connaître des moments difficiles. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats, disant : ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges après qu'on les eut chargés de coups. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il se fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier : relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ayant envoyé dire qu'on vous relâche, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs : après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés. En apprenant qu'ils étaient Romains, ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la ville, de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Alors, peut-être pour aider à notre lecture, et nous y viendrons à la fin, on parle de prêteurs et de licteurs. On n'utilise plus trop ces termes-là maintenant, mais entendez par là des magistrats d'état civil, des gouverneurs, et puis des gendarmes. C'est les gendarmes qui ont conduit en prison, qui ont été les recherchés, et à qui on a dit « dites à vos patrons de venir eux-mêmes nous rendre la liberté ». Il y a une expression qui revient, et je vais m'arrêter sur cette expression. il nous est dit qu'au verset 20, ceux qui étaient les maîtres de cette pauvre femme qui possédait un don, pour deviner, du jour d'un instant à l'autre, ils vont perdre leur source de gain. Et ils vont dire ceci pour justifier leur colère. « Ces hommes troublent notre ville. » Je m'arrêterai sur cette expression en vous posant la question cet après-midi. Qu'est-ce qui vous trouble ? Pas par rapport à cette histoire, bien évidemment, mais par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien. Dans cette histoire, on va le voir, évidemment, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de personnes vont connaître des moments douloureux. Il y a de la violence, il y a de la domination, il y a de la peur, il y a de l'injustice. Et tous ces éléments, et il y en a d'autres encore, seront à l'origine de toutes ces souffrances. Pas forcément ensemble, mais que ce soit de la violence, que ce soit une forme de domination, que ce soit de la crainte ou quelque chose comme ça. Beaucoup ont été troublés et beaucoup ont souffert à cause de ça. On va le voir ensemble, l'amour peut également être à l'origine d'actes courageux, mais qui amèneront de la souffrance aussi. Le fait d'être capable d'aimer peut produire de la souffrance. J'en viens à ce qui est à l'origine de toute cette histoire, c'est dès le verset 16, l'histoire de cette femme qui avait un don pour deviner, cette femme qui était voyante, certainement avec un don réel. Elle procurait de grands profits à ses maîtres, certainement un don réel. Mais derrière tout cela, évidemment, il n'y a rien d'autre que de la manipulation. La manipulation, ne serait-ce que d'elle vis-à-vis de ceux qui, avec de l'argent, cherchent à connaître leur avenir, mais de la manipulation sur sa propre vie, parce que la pauvre, elle est esclave. On voit bien qu'elle n'était pas libre de sa vie. Et la condition de cette femme est tout simplement horrible. Il n'y a pas d'autre mot que de parler d'injustice. Il nous est bien dit que cette femme, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. On pourrait, si on parlait d'une autre forme de commerce tout aussi horrible et exécrable, on pourrait parler de maquereaux qui ont mis sur le trottoir une femme qui rapportera de l'argent. D'une autre manière, elle a des maîtres qui la gouvernent, qui mènent sa vie. Et ça, c'est abominable. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Cette femme est sous domination de deux aspects différents, d'ailleurs. C'est assez singulier pour le signaler quand même. Elle est premièrement esclave du diable et deuxièmement esclave des hommes, esclave de ses maîtres qui ont mis la main sur elle. Je dis des hommes, ça pourrait être des femmes. Bref, des gens qui ont décidé d'en faire leur esclave et de tirer un profit de cette femme. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand, d'un instant à l'autre, elle est plus capable de deviner, ben, ça va être une grande souffrance pour les maîtres qui se disent « mais on n'a plus d'argent maintenant, on n'a plus de profit ». C'est quand même terrible. Je pense à cette femme, dans un premier temps, une femme qui est manipulée, une femme qui, injustement, s'est retrouvée esclave. Cette femme, qui la délivrera ? Qui s'occupera d'elle ? Manifestement, personne. On ne voit pas dans l'histoire qui va changer son quotidien. Certainement pas ses maîtres, certainement pas ceux qui viennent tirer profit de ses lumières, soi-disant lumières. Donc, on ne voit pas trop qui pourra l'aider. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle gagne beaucoup d'argent, mais elle n'est pas riche. On s'aperçoit que c'est une femme qui est censée éclairer l'avenir des autres, mais elle, elle vit dans des ténèbres profondes. C'est curieux comme ça ressemble à quelques parcours de vie où cette femme intéressait les autres, mais personne finalement ne s'intéressait vraiment à elle. C'est le problème de la société d'aujourd'hui, où si vous intéressez du monde, c'est certainement parce qu'il y a un profit derrière, mais dans la réalité, beaucoup de personnes réalisent qu'on ne les aime pas. On les aime non pas pour ce qu'elles sont, mais on les aime pour ce qu'elles font, on les aime pour ce qu'elles donnent, on les aime pour ce qu'elles produisent, mais non pas pour ce qu'elles sont, certainement pas. Et il n'y a rien de plus terrible que cela, il n'y a rien de plus épouvantable que de ne pas, évidemment, se sentir aimé et de n'avoir personne pour nous défendre. Je crois que face à nos difficultés, face à vos difficultés, vous avez besoin, vous aussi, d'être défendu. Alors, si vous avez quelqu'un à vos côtés, c'est déjà un appui, ça c'est certain. Mais c'est pas ça qui défend, c'est pas ça qui donne forcément la solution quand on a vraiment besoin d'un défenseur, quand il y a des problèmes de voisinage, quand il y a des conflits et que tout cela doit finir devant les tribunaux, on vous encourage à prendre un avocat. Faites-vous défendre. N'y allez pas tout seul, vous prenez un risque. Vous n'êtes pas capable, c'est pas votre métier. Et puis vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Vous êtes jugé parti, vous aurez du mal quand même. Prenez quelqu'un qui va vous défendre. On a besoin d'être défendu, souvent. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être défendu. Et il me semble que cette femme aurait mérité d'être défendue, mais personne ne la défend. Elle exerce son commerce, bien malgré elle, ou en tous les cas, manipulée de toutes les manières. Elle rapportait beaucoup d'argent. Elle ne devait pas en voir bien la couleur de tout cet argent-là. Mais cette femme, elle a besoin d'être délivrée. Et je m'aperçois dans ce texte, parce que c'est curieux d'ailleurs, elle s'est rapprochée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait fréquenté quelques chrétiens dans cette ville. Et puis ça faisait quelques jours qu'il allait régulièrement à un certain lieu de prière. Et il y avait cette fameuse femme qui suivait de pas très loin et qui annonçait à tout le monde « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». D'ailleurs, certaines traductions, semble-t-il un peu plus précises, diront davantage « Ils vous annoncent une voie de salut ». Ça, c'est un peu troublant parce que « une », ça ne veut pas forcément dire « la seule ». Si vous dites « la voie du salut », il semblerait qu'il n'y en ait pas d'autre. Mais si on vous dit « une », ça peut être celle-ci, ou pourquoi pas une autre. Donc, derrière cette presque vérité, derrière cet encouragement à dire aux hommes et aux femmes « suivez-le, écoutez-le, allez après lui, il va vous annoncer de bonnes choses », on était à la frontière entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est totalement vrai, et ce qui est malheureusement un peu de l'erreur, pour ne pas dire totalement une erreur. Alors cette femme a besoin d'être délivrée. Qui le fera ? Elle a bien fait d'approcher l'apôtre Paul sans trop le savoir, on imagine. Est-ce que c'est peut-être même par provocation ? Est-ce que c'est pour une confrontation quelconque ? Le fait est qu'avec Dieu, il n'y a pas d'opposition, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de confrontation. Il y aura plutôt, si c'est un affrontement, ce sera pour une délivrance, c'est-à-dire plutôt un rapprochement. Il est bien que cette femme soit plus proche de Dieu, il est bien que cette femme se soit approchée de Paul, parce que la Bible dit qu'à un moment donné, cet homme, à la seule évocation du nom de Jésus, va offrir à cette femme la liberté. Vous imaginez ? Paul s'est retourné, s'est adressé à cette femme et a dit simplement ceci, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il s'adresse à ce démon qui possède cette femme, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et la Bible dit que instantanément, elle a été délivrée. Gloire à Dieu, instantanément, délivrée de sa possession, instantanément, délivrée de ses maîtres. Parce que quelque part, ces gens vont la jeter, hein. Ces gens vont pas la garder, hein. Ces gens vont se désintéresser d'elle, elle rapporte plus rien. Ça n'est d'aucun profit pour eux, ils vont pas la garder, peut-être même la maltraiter, la malmener, pour s'assurer que vraiment elle a plus rien. Le fait est que ça s'est fait immédiatement, délivrée de la possession, délivrée de ses maîtres, et plus important que tout, bien évidemment, délivrée de la condamnation. Vous vous rendez compte que cette femme trafique avec les choses diaboliques. Cette femme est un jouet entre les mains du diable. Cette femme est un instrument, j'insiste, malgré elle, entre les mains du diable, parce que si chacun, tous ceux qui prétendent ne pas craindre le diable et ne pas croire qu'il puisse faire du tort, si seulement ils savaient, si seulement ils prenaient conscience que c'est vraiment réel, alors ils arrêteraient. Ils arrêteraient leurs provocations, ils arrêteraient leurs intentions malveillantes, certainement, parce que derrière, il y a une culpabilité, il y a une condamnation. Et cette femme vient d'être délivrée de la mort, elle vient d'être délivrée de l'enfer, elle vient d'être délivrée de la condamnation, parce que on a évoqué le nom de Jésus, on a prié dans le nom de Jésus, et la délivrance a été parfaite ce jour-là. Alors que Dieu soit béni. Parce que si vous avez été troublé par la voyance, si vous avez été troublé par un médium quelconque qui vous a prédit de mauvaises choses, si vous avez été troublé de quelque manière que ce soit, réjouissez-vous, parce que Jésus délivre ceux qui sont troublés, et il est capable d'apporter la délivrance. Et puis l'histoire continue, et on arrive à ces fameux investisseurs ruinés. Vous savez, ceux qui s'occupaient de cette femme, les investisseurs. On a investi dans ce don de divination, qu'est-ce que ça rapporte ? Il n'y a rien de plus épouvantable que cela. On a investi, c'est des fonds vautours, on a investi. Voilà, on espère que ça va nous rapporter gros. Ça a rapporté, sauf qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Et franchement, on ne va pas les plaindre. Moi, je ne les plains pas, ces hommes-là qui ont commencé à faire scandale dans la ville parce qu'ils avaient perdu l'espoir de leur gain. Je les plains absolument pas. Par contre, je les blâme. Parce que finalement, ce sont des gens sans cœur. Ce sont des gens cupides, ce sont des gens méchants, ce sont des gens violents. Ils sont à l'image de leur monde, finalement, du monde dans lequel ils ont souhaité vivre. Mais vous savez, les richesses injustes, comme dit la Bible, et tous ceux qui sont ainsi cupides, avares, égoïstes, etc., tous ces gens violents, tous ces gens qui vivent ainsi, sont en danger, évidemment en danger. C'est Jacques qui dira ceci dans une de ses lettres. Je l'ai noté. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Les richesses ne durent qu'un temps. La richesse ne dure qu'un temps. Comme beaucoup l'ont dit, la santé ne dure qu'un temps. La vie ne dure qu'un temps et passe bien vite, évidemment. Il y a des réalités ici-bas, mais sachez que ces réalités qui durent, ne dureront pas toujours. Dans le livre de Jérémie, il y a un petit peu une notion de ce que les gens vivent et produisent et de la manière dont Dieu les regarde, de la manière dont Dieu les jugera. Dans le livre de Jérémie, il est dit ceci, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel ? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Point d'interrogation. C'est juste pour ce dernier bout de verset que j'ai lu tout le contexte. Un monde cruel, un monde méchant, un monde dur, un monde totalement révolté. Dieu regarde et Dieu laisse faire. Beaucoup d'injustices. Certains pourraient se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas délivré cette femme plus tôt? Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces gens s'enrichissent sur le compte, sur le dos de cette pauvre femme pendant tant de temps? Pourquoi est-ce qu'il a permis ces choses-là? N'a pas forcément la réponse à cela. Ceci étant, Dieu dit, mais vous les riches qui vivez de rapines, de vols, qui vivez de cette manière-là, dites-moi, que ferez-vous à la fin? La fleur sèche. L'herbe sèche, la fleur tombe. Les richesses aujourd'hui, c'est un grand vide demain. Tout bien mal acquis aujourd'hui ne rapportera jamais rien, de toutes les manières, et encore moins vers le ciel. Certainement pas. Alors, certains se sont plaints parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. Se sont plaints. Ils se sont dit, comment se fait-il que je veux plaire à Dieu et que le malheur me tombe dessus? Et comment se fait-il que le méchant que je vois tous les jours prospérer, à lui il ne lui arrive jamais aucun mal. Difficile de répondre à cela. La vérité dans tout cela, et évidemment c'est ça la vérité, c'est que ce qui compte, c'est la fin. Et béni soit Dieu, parce que ces gens ont été dépouillés à la fin. C'est pas normal qu'ils aient la main sur cette pauvre femme, c'est pas normal qu'ils gagnent de l'argent sur son compte, c'était absolument pas normal, mais ils vivaient dans un monde qui était mauvais, et ils avaient dans leur cœur autant de méchanceté que le monde qui les entourait. Mais tout cela ne dure qu'un temps. Et un jour, Dieu dit stop. Et le jour où il dit stop, ben c'est trop tard. C'est évident que c'est trop tard pour changer. Dieu jugera le méchant. Ça, c'est une vérité de la Bible, avec justice. Ce n'est pas à nous d'en rendre compte. Ce n'est pas à nous de vouloir faire justice. C'est Dieu qui le fera avec justice. Alors évidemment, ces investisseurs ruinés, ils se sont mis en colère. Et ils ont commencé à agiter la foule. Vous avez vu ce qu'ils vont dire. Ces hommes troublent notre ville. Non, non, non. En fait, vous, vous êtes troublés parce que le compte en banque va diminuer. C'est ça la vérité. Vous, vous êtes troublés parce que d'un coup, elle ne vous rapporte plus rien. Vous, vous êtes vraiment embarrassé parce que vous aviez prévu d'acheter un nouveau bateau, mais l'argent, vous l'aurez jamais parce que cette femme, elle ne vous rapporte plus rien maintenant. C'est vous qui êtes troublé. C'est vous. Et dans leur trouble, ils vont jeter cela sur la faute de Dieu, évidemment, et sur la faute de Paul. Et ils vont dire, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs, on n'est pas en Palestine. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Et le plus terrible, c'est ce qui suit, c'est que la foule se souleva aussi contre eux. Cette femme était troublée. Jésus l'a délivrée. Ces hommes ont été troublés parce que Dieu les a jugés. Mais cette foule, pourquoi se met-elle dans un état pareil ? J'ai presque envie de dire à cette foule, mais pourquoi vous vous êtes laissé gagner par ces quelques mots, par ces quelques paroles ? Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça ? Vous n'avez rien à perdre à écouter ce fameux Paul. Il vous annonce des coutumes que l'on n'a pas le droit de suivre. Ah bon ? Lesquelles ? Non ? C'était facile de poser la question. C'était facile de dire à ces investisseurs ruinés, j'aime bien mon expression, investisseurs ruinés, c'était facile de leur dire, oui, d'accord, d'accord, mais moi je vais aller l'écouter pour voir ce qu'il dit. Dis-moi, Paul, il y a une rumeur qui court sur ton dos et il paraît que tu dis des choses qu'on ne doit pas entendre, qu'on ne doit pas suivre. Explique-moi un petit peu plus. Qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller demander ? Qu'est-ce que ça leur coûtait d'aller chercher un petit peu à mieux comprendre ? Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre de côtoyer l'apôtre Paul ? Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre de côtoyer ces missionnaires ? Ils n'avaient rien à perdre. Tout au plus, avaient-ils des choses à gagner ? Tout au plus, avaient-ils des choses à prendre ? Mais pour eux, non. Apparemment, ça ne rentre pas dans leur tête. Alors, ils ne cherchent même pas à savoir, à comprendre, à connaître de quelle coutume il s'agit. Et d'un coup, la rumeur enfle. Et d'un coup, ben voilà, la rumeur l'emporte. Vox populi, la voix du peuple. Ce n'est pas la plus démocratique toujours, mais quelquefois elle l'a été. Et là, finalement, on les a manipulés avec pas grand-chose. Méfiez-vous du nombre. Méfiez-vous du nombre. Ce n'est pas parce qu'il y a du nombre que c'est forcément bon. Méfiez-vous du nombre. Il peut y avoir du monde et ça peut être excellent. Mais ne laissez pas un autre juger pour vous. Ne laissez pas un autre emporter votre voix. Ne laissez pas un autre décider à votre place. Faites vos choix. Décidez par vous-même, réfléchissez par vous-même. Ces gens-là, s'ils avaient un instant écouté l'apôtre Paul, ils auraient compris qu'on ne parlait pas de coutume, parce que Dieu ne parle pas de coutume, pas de culture. C'est lui qui a installé les peuples sur la face de la terre et on peut se réjouir de la couleur, peut se réjouir de la variété des coutumes et des cultures, évidemment. Mais Dieu n'était pas en train de parler de culture, il était en train de parler de l'âme, du cœur. Et vous pouvez... Disséquer n'importe quel être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, le cœur a à peu près toujours la même forme et tous les cœurs se ressemblent. C'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. C'est exactement la même chose qui arrive maintenant. Cette foule a été impressionnée, elle a été gagnée, alors personne ne s'émeut. Finalement, qu'il n'y ait même pas de procès. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de procès, hein ? En un rien de temps, on les a pris, on les a maltraités, on les a roués de coups et on les a jetés en prison. Terminé. Ça nous a agités, ça. Alors on veut faire taire tout le monde, les magistrats, les policiers ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émeute. Donc le plus simple, c'est que l'objet, celui qui concentre un petit peu l'animosité de tout le monde, on le jette en prison, on l'enlève au regard de tout le monde et puis ça va se calmer. C'est toujours comme ça qu'on fait. On va faire taire les choses, on va calmer les choses. Allez hop, on met dans un trou, on met dans une prison, on enferme et tout va bien. Et puis demain, on les fera sortir en leur disant « Allez parler de vos histoires plus loin ». Même pas de procès, rien du tout. On pense à personne. Non, on pense même pas à ces gens-là qui vont être roués de coups. Ça intéresse personne pourvu que l'on garde le calme. Finalement, l'être humain apparaît tellement fragile, versatile bien souvent, hein. Versatile bien souvent. Les gens, un jour, ils vous disent blanc, après, ils vous disent noir. C'est déstabilisant. Un jour, tout va bien, un jour, tout va mal. C'est ce qui se passe dans les émeutes. C'est assez impressionnant, quand même. Dans les émeutes, tout va bien, et puis hop, ça part d'un coup. Et ceux qui n'y étaient pour rien pourraient y perdre la vie. Paul et Silas ont manqué y perdre la vie. Ils ont été malmenés. La foule a été impressionnée. Bizarre. Elle a été impressionnée parce qu'elle n'a pas voulu écouter par elle-même. Je vous en prie, faites-vous une idée par vous-même de l'Évangile. Ne laissez pas les autres vous gagner à leur cause, quels qu'ils soient. Allez chercher auprès de Dieu les réponses à vos questions. Il a toutes les réponses parce qu'il connaît d'avance toutes vos questions, n'hésitez pas à le lui demander. Et puis on arrive à Paul et Silas, qui eux, dans cette prison, vont se retrouver battus, pourrait-on dire torturés. On n'en est pas loin, hein, parce qu'à l'époque, les sévices étaient violentes, très très violentes. Donc ils ont été roués de coups, des coups de bâton. On les a chargés de coups, on leur en a donné peut-être 40 moins 1. On disait qu'à 40 coups, l'être humain ne supportait plus la douleur et mourait. Donc on s'arrêtait à 39. On aurait pu s'arrêter à 15. Non, on va quand même jusqu'à 39. L'histoire de la souffrance de ces gens-là me dit quelque chose d'étonnant. C'est que Paul avait la possibilité d'éviter les coups. Et il avait même la possibilité de ne pas aller en prison. Non pas en ne faisant pas tout ce qu'il avait fait, hein. Parce que Paul ne regrette absolument pas d'avoir dit à cette pauvre femme manipulée « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle » et le démon a été chassé. Il ne regrette pas ça. Il ne regrette absolument pas que ses investisseurs pleurent sur leurs investissements futurs parce qu'ils sont ruinés. C'est pas grave. Alors là, vraiment pas grave. Il n'en voudra même pas au fait qu'ils aient été arrêtés sans aucune autre forme de procès. Mais il aurait pu échapper au coup. Il aurait pu échapper à la prison. Il lui suffisait juste de sortir sa carte citoyen romain. Et on ne mettait pas la main sur lui. D'ailleurs, la fin du texte, vous l'avez vu, hein, nous explique cela. Quand on est venu pour les libérer, là, il va dire qui il est. Il le dit à ce moment-là. Et il dit qu'il vient eux-mêmes nous mettre en liberté après nous avoir battus de coups, publiquement, sans jugement, et pourtant nous sommes aux Romains. Là, je vous dis que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. On y viendra tout à l'heure. Paul n'a pas voulu être libéré des coups. Il n'a pas voulu échapper aux coups. Il n'a pas voulu échapper à la prison. Il n'a rien dit. Il faut quand même se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien ? Paul a préféré, dans la prison, chanter les louanges de Dieu que sa misère et ses douleurs. C'est quand même rare, hein ? C'est quand même rare. Une fois que vous en avez pris des coups, vous avez tendance plutôt à chanter « aïe, aïe, aïe » qu'autre chose. Hein ? Ah ben non, il a décidé de glorifier Dieu, il a décidé de bénir Dieu, il a décidé d'acclamer Dieu. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il fait ça également ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je vois au moins deux réponses, puisqu'il y a deux questions. Je vois au moins deux réponses à cela. C'est qu'il y a les prisons intérieures et il y a les prisonniers invisibles. Il y a les prisons intérieures et les prisonniers invisibles. On avait demandé, comme si c'était ennemi numéro un, on avait dit, tu prends Paul, tu prends Silas, et tu les mets vraiment en lieu sûr, en prison. Alors, les prisons étaient faites par des espèces de longs couloirs. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous amener une photo. On avait visité les vestiges, les ruines de Philippe, de cette ville où il se trouvait et de ce qui semble être la prison, la geôle où l'apôtre Paul a été enfermé. Bon, il n'y a que quelques ruines maintenant, ça ne nous aurait pas servi. Mais pour vous dire que ça existe encore aujourd'hui. En général, il y avait quelques cellules quasiment de plein pied et puis après on s'enfonçait un peu plus profond dans la prison, une espèce de tunnel bien sombre, bien lugubre. Et la prison intérieure, c'était en fait la dernière cellule, le dernier cachot tout au fond, le pire. C'est ça. On a décidé de le mettre tout là-bas. Et on l'a mis tout là-bas, et on a bien précisé, tu lui mets bien les fers ou les ceps, on ne sait pas si c'était des espèces de planches en bois qui scellaient les pieds, les chevilles, et également pour les mains, il y avait des instruments comme ça pour les tenir attachés au mur, au sol, pour pas qu'ils bougent, pour pas qu'ils s'en aillent. Imaginez un peu la situation. On les a enfermés comme cela, et on les a mis tout au fond. Et Paul a accepté d'aller jusqu'au bout. À n'importe quel moment, il aurait pu dire « Stop, je suis romain, j'ai présumé de mes forces, non, je ne veux pas !» Il a tout accepté. Il a tout accepté pour une seule raison, me semble-t-il. Parce que dans toute cette histoire, il y en a un dont on n'aurait pu jamais parler. C'est le gardien de la prison. Il y a des prisonniers et des prisons pour ces prisonniers, des prisons intérieures pour ces prisonniers. Puis il y a des prisonniers invisibles. Je ne sais pas Ça devait pas être folichon quand même, hein, d'être geôlier de la prison. Hein? Ça devait pas être terrible quand même. Il y a des métiers qui sont plus agréables maintenant. Voilà, je ne sais pas s'il avait choisi, si ça lui plaisait, si ça lui plaisait pas. On va pas discuter de ça, on peut pas savoir. Mais le fait est qu'il en a vu passer des moitiés mourants. Il en a vu passer, qui ressortaient jamais d'ailleurs, qui mouraient en cellule. Il a dû en entendre des gémissements, il a dû en entendre des colères, il a dû en entendre des hurlements. Mais son quotidien, c'est ça, quoi. Pas tellement heureux, c'est pas tellement joyeux. C'est ça, son quotidien. Il est à l'intérieur de cette prison. Qui s'occupait de ce geôlier? Qui allait lui sauver la vie? Mais c'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il y a des moments, il y a des endroits, il y a des situations où on n'est plus accessible. Il n'y a que Dieu qui peut nous atteindre. Il n'y a que lui qui peut nous atteindre. Alors j'en viens à me dire que Paul est arrivé dans cette ville de Philippe. Il a trouvé quelques croyants. Comme il a trouvé quelques croyants, il est resté. Et puis il a pris du temps avec eux. Et puis Dieu a permis que cette femme possédée vienne près de l'apôtre Paul. Et que ça dure pendant des jours. C'est Dieu qui a permis ça. Et au bout du compte, Paul a délivré cette femme. Et au lieu que les maîtres de cette femme soient apeurés devant cette espèce de miracle qu'ils ne saisissent pas et qu'ils ne s'enfuient, Dieu a permis que ces gens soient durs, soient méchants, soient des violents et qu'ils ameutent la ville. Et Dieu a permis que la foule soit gagnée. Et Dieu a permis que les gendarmes, les policiers, les magistrats aient peur d'une émeute. Alors vite, on va régler le problème. On va les battre de coups et Dieu va permettre d'inspirer ces gens-là en disant non seulement on va les battre de coups, mais on va pas les jeter hors de la ville, on va les mettre dans notre prison. Tout ça pour atteindre un geôlier qui n'aurait pas entendu parler du passage de Paul, certainement, qui n'aurait pas profité du salut ce jour-là. Ça paraît incroyable de quelle manière Dieu fait les choses. Mais ce geôlier, il a été troublé lui aussi. Il n'a pas été troublé en recevant Paul et Silas. J'imagine que ça a dû lui faire drôle. Quand il a vu passer ces deux corps sanguinolents et qu'il les a jetés au fond de la cellule et qu'il a bien attaché les liens pour s'assurer qu'ils étaient bien enfermés, ça a dû lui faire drôle s'il les a entendus chanter. Il a peut-être pensé à un délire, il a peut-être pensé qu'il perdait la raison. Certains, à cause de la torture, sont devenus fous. Hein. Ils ont perdu la raison, trop de douleur. Qu'est-ce qu'il a bien dû penser? Mais ça a peut-être pu le troubler, mais ce n'est pas ça qui l'a vraiment troublé. Ce qui l'a troublé, c'est quand il y a eu le tremblement de terre. Vous avez vu, il y a eu un tremblement de terre. Et avec le tremblement de terre, il nous est dit qu'il y a dû avoir un fracas assez assourdissant parce que toutes les portes de toutes les cellules se sont ouvertes. Il n'y avait pas trop de lumière à cet endroit-là. Donc il a demandé de la lumière. Pourquoi? Parce que quand, dans la pénombre, il a réalisé que toutes les portes étaient ouvertes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée et il allait se suicider. Parce qu'il s'est dit, si les prisonniers sont partis, s'il n'y en a qu'un même qui est parti, demain on va me demander des comptes et on m'emmène dans les arènes, on m'emmène dans les jeux du cirque et je vais être dévoré par les bêtes sauvages, je préfère me suicider tout de suite. Ce sera réglé plus rapidement. Cet homme a été troublé. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ne soyez pas troublés si demain il devait se passer quelque chose d'incroyable dans votre vie, si c'est Dieu qui est aux commandes. Le fait est que l'apôtre Paul a senti, est-ce que c'est le glaive qui sort du fourreau, l'épée qui sort du fourreau, un bruit distinctif, quelque chose. Il a senti que le geôlier allait s'enlever la vie. Alors il va hurler, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Et là, moi je vous dis, c'est encore un miracle. Toutes les portes des cellules se sont ouvertes. Et il n'y a pas un prisonnier qui s'est échappé. Ils sont fous. Ou alors ils sont maîtrisés. Moi, je les vois plutôt bien maîtrisés, voyez. Vous imaginez le gars qui a tapé des coups de pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre pendant des jours. Elle ne s'est jamais ouverte, elle est fermée. Et d'un coup, il voit la porte qui s'ouvre en pleine nuit en plus. Il y a de quoi filer à l'anglaise, hein. La porte s'ouvre, et là, il veut se lever, il est bloqué. Vous imaginez la torture? Non, je veux me lever. Impossible de sortir. C'est miraculeux ce qui s'est passé. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Alors, il a demandé de la lumière pour s'assurer que la chose était vraie. Et je pense qu'avant d'aller beaucoup plus en avant et d'écouter l'apôtre Paul, il a dû refermer toutes les cellules. Voilà, c'est mon idée, hein. Il a dû refermer toutes les cellules pour se tranquilliser un peu, mais ça ne suffit pas. Hein. Et là, il va se présenter devant cet homme qui avait été jeté en prison. Savait-il pour quelle raison ? Peut-être même pas. Il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? C'est une révélation ? C'est un langage ? Est-ce qu'il avait l'habitude de pratiquer ce langage ? On peut en douter. Le fait est qu'il a réalisé qu'il se passait des choses surnaturelles et que face au surnaturel, on a besoin d'être sauvé, hein, sinon on meurt, on meurt. Alors l'apôtre Paul va lui dire simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. 8 mots qui changent une vie. 8 mots qui changent une vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors ça n'a pas suffi en soi, mais ça a rassuré immédiatement. Et là, il nous est dit que l'apôtre Paul, avec Silas, ont pu lui raconter l'histoire de Christ, l'histoire de ce Jésus, crois au Seigneur Jésus. Il a pu raconter les coups, il a pu raconter les miracles, il a pu raconter l'amour que Jésus a manifesté pour la terre. Il a pu raconter l'intention de Dieu de sauver les hommes, il a pu expliquer le jugement de Pilate, il a pu tout expliquer. Le fait est que cet homme a compris la croix, a compris sa perdition, a compris la chance incroyable qu'il avait à cet instant de passer de l'enfer au ciel, de passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Il en a pris conscience. Eh bien, il a décidé de s'engager avec Dieu. Il s'est fait baptiser. Lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, il s'est fait baptiser. Qui s'occupait de ce geôlier ? C'était Dieu, déjà. Qui allait lui sauver la vie ? Ben, c'était Dieu. Mais pour en arriver là, évidemment, il faut beaucoup de miracles. Et je crois que si vous en êtes là cet après-midi, il a fallu beaucoup de miracles déjà, puisque vous êtes là. Et il en faudra encore un dernier, celui de convaincre votre cœur pour que vous soyez sauvés pour l'éternité. Alors je conclus en disant que d'autres ont été troublés finalement. Ceux dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux magistrats. Parce que pour eux, le matin, l'histoire est oubliée. Hein. Oui, c'est vrai, hier, on a eu une émeute en ville, mais on a réglé ça. Il y a eu des affrontements, mais on a maîtrisé. Il y a eu des gardes à vue. La garde à vue est terminée. Il n'y a pas d'avocat, c'est pas la peine. On les a juste roués de coups, on leur a bien fait peur. Maintenant, on va leur dire de partir. Et on envoie les gendarmes en disant, allez dire qu'ils partent. Et là, l'apôtre Paul tient. Il tient ces gens-là. Et il dit, attendez, moi je ne sors pas comme ça. Hein. Moi, je suis citoyen romain. Et là, on aurait pu voir sur le visage des autres quelque chose, la panique. Parce que là, ça se retourne contre les autres, hein, les magistrats. Révoqués immédiatement. Hein. Et c'est eux qu'on va mettre en prison. Et c'est peut-être eux qui iront la prochaine fois au jeu du cirque. Hein. Attention, on ne plaisante pas avec ça. La citoyenneté romaine. D'ailleurs, même Paul en parlera à quelqu'un d'autre en disant qu'il est romain. Et cet autre, qui n'est pas n'importe qui est gouverneur, lui dit, mais à prix d'argent, j'ai obtenu cette citoyenneté. Comment tu as pu l'avoir ? C'était quelque chose, la citoyenneté romaine. Alors il va dire, non, maintenant, moi je ne pars pas comme ça. Qu'ils viennent eux-mêmes faire leurs excuses. Qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir de prison. Alors ils sont venus, et ils étaient bien penauds, hein. Ils sont venus, ils n'en menaient pas large, hein. Ils sont venus, et le texte dit qu'ils les ont suppliés. Ils sont venus, ils les ont apaisés. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté en les priant, en les suppliant de quitter la ville. Trop d'émotions en 24 heures. Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas vous en aller. Paul n'est pas parti. Avant de rejoindre l'Église et avant de dire, voyez, Dieu prend soin de son Église. Non seulement ils s'en sont sortis vivants, ça aurait pu mettre, faire peur et mettre la panique hein, dans l'Église locale. Vous imaginez ce qui arrive si on rend un peu trop témoignage et qu'il se passe des choses, on va finir en prison. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. La réalité, c'est que ces magistrats, finalement, qui étaient complètement apeurés, vont comprendre ce que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. La ville de Philippe a été bouleversée. Elle n'a pas été troublée, elle a été bouleversée. Troublée, c'est pas bon. Retourner, ça peut être bon. Si vous êtes à l'envers, il faut vous remettre à l'endroit. Si vous voyez mal, il faut bien voir. Ça, c'est être bouleversé. Ça, c'est être tourné. C'est un changement radical. Et la Bible dit que si quelqu'un accepte Jésus dans son cœur, il devient une nouvelle créature. Vous êtes bouleversé, vous êtes remis à l'endroit en somme. Et c'est ce qui s'est passé dans cette ville de Philippe. Ça s'est passé pour cette pauvre femme qui était dominée. Ça s'est passé pour un geôlier qui était inexistant, qui finalement ne, n'intéressait pas grand monde lui non plus. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Devrais-je vous rappeler que Jésus dira qu'il n'est pas venu pour perdre les hommes, mais il est venu pour les sauver. Amen. Il n'est pas venu pour perdre les hommes, il est venu pour les sauver. Alors je disais que dans cette histoire, il y a de la violence, la domination, de la peur et de l'injustice notamment, qui sont à l'origine de toutes ces souffrances. Mais je vous ai parlé d'amour aussi. C'est l'amour que Paul avait pour Dieu qui l'a poussé à accepter les coups et la prison pour atteindre le geôlier. Si Dieu ne nous aimait pas, Jésus ne serait pas mort à la croix. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas tout sacrifié pour nous. Il a donné son Fils, son unique, son bien-aimé, pour notre salut. C'est pour votre salut. Alors si lui a été capable d'aller jusque-là, c'est-à-dire dans votre prison, vous qui étiez un prisonnier invisible, hein, ça ne se voit pas en apparence, vous avez l'air bien libre, mais la réalité c'est que ce n'est pas ça. Et vous êtes perdu ou condamné si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Voilà la solution. Ne laissez rien ni personne vous troubler, encore moins le diable, mais confiez-vous en Dieu. Il est le prince de la paix. Il donne la paix. Et à la croix du calvaire, à la croix de Golgotha, quand il meurt, il dit « ça y est, tout est accompli ». Vous avez la possibilité d'être délivré cet après-midi. Vous avez la possibilité d'être libéré. Donnez-lui franchement, totalement, toute votre vie et il conduira vos pas. Amen. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants ? Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Nous nous attendons à Dieu, nous nous attendons à toi parce que tu es le libérateur, parce que tu es celui qui délivre encore aujourd'hui. Tu es celui qui nous étonne, tu es celui qui nous fait du bien, tu es celui qui change les cœurs et les vies. Et nous, nous pouvons rendre ce témoignage que c'est ainsi, c'est vrai. Tu as fait des miracles, tu as fait des prodiges. Je te demande d'étendre ta main. Je te demande d'agir maintenant et de te glorifier. Je te demande de toucher le cœur, l'âme de celui qui est prisonnier. Il y a tellement de prisons différentes. Il y a tellement de cellules, de geôles qui sont terribles et dans lesquelles nous pouvons nous trouver enfermés, que la vie de quelqu'un ressemble de près ou de loin à tout ce qui a été décrit dans cette histoire. On pourrait parler de la foule tellement manipulée, tellement fragile. On pourrait parler de ces magistrats tellement craintifs, de leur position, de leur pouvoir. On pourrait parler de cette femme, on pourrait parler de ces mauvais riches, on pourrait parler de ce pauvre geôlier, on pourrait parler de tellement de personnes. Il est évident que ça rejoint tous les troubles que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors je prie que personne ne quitte ce lieu avec du trouble, que celui qui ne te connaît pas soit rassuré, que celui qui vit loin de toi soit béni, que celui qui est désespéré soit encouragé, qu'il soit béni, Seigneur. Merci d'étendre ta main et merci de te glorifier maintenant. Amen.